La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Le corps appelle la biologie. Logos, bio, la vie. Nous avons abordé surtout la physique et les mathématiques. À travers la philosophie de la nature, Maritain nous oriente petit à petit vers la biologie. J'ai rappelé combien elle était importante pour lui, puisqu'il a suivi Hans Driesch dans sa recherche sur les oursins à Heidelberg de 1906 à 1908. Et la biologie me semble être importante parce que si on peut dire que la physique a marqué le début du XXe siècle, je crois que la biologie est la science qui actuellement marque notre temps. Donc comment Maritain, en 1932 dans les degrés du savoir, il y a presque 100 ans, il y a 90 ans en tout cas, peut répondre à des questions d'actualité, puisque le corps forcément va nous inviter à répondre à des questions sociétales, aussi bien sur le genre que sur la PMA, que sur le problème de l'euthanasie, etc., etc. Et ce sont plus largement que des questions sociétales, des questions, j'allais dire, de civilisation. La société peut être dite de consommation, elle est à un niveau, on va dire, un peu matériel et horizontal. La civilisation, elle se définit au contraire par la culture, c'est-à-dire les arts. Mais là, nous sommes dans un changement civilisationnel. Donc ce sont des questions de fond, et dont la lame de fond, pour reprendre la métaphore, ne peut aller que dans le sens du monde, de la mesure. Parce que la logique va être celle de la quantité. Nous sommes 8 milliards, donc vous voyez bien que les jeunes générations sont traversées par le malthusianisme, pas avoir d'enfants pour sauver la planète, pourquoi ne pas réduire la vie, et quand on est fatigué, ben, ça coûte cher et puis ça encombre. Bientôt, on pourra imaginer de piquer les gens à 75 ans s'ils ne sont pas en forme. Voilà, et puis on se dirige quand même vers des concepts liés à la quantité, au mesurable. Et la biologie, avec ses progrès, nous invite aussi à voir les choses très différemment. Donc comment pouvons-nous répondre à ces questions éthiques à travers des recherches biologiques telles que Maritain en dispose hein, en 1932. Eh bien, il va proposer, finalement, après avoir parlé des mathématiques, disant que le philosophe, lui, va répondre différemment en biologie. L'essence de la biologie ne consiste pas dans une mathématisation du sensible. Si largement qu'en progressant comme elle le doit dans l'analyse matérielle de la vie, la biologie use de l'instrument mathématique, celui-ci reste pour elle un simple instrument. Elle ne s'oblige pas à substituer des entités quantitativement reconstruites aux objets sensibles et qualitativement déterminées que l'observation lui fournit. La biologie demeure une science autonome par rapport aux règles d'explication mathématique. Elle emprunte quand elle veut la méthode mathématique. Elle n'est pas constituée elle-même comme une mathématique des phénomènes de la vie. Des sciences comme la biologie expérimentale ou la psychologie expérimentale s'appliquent normalement à acquérir de la vie végétative ou de la vie affective et cognitive une connaissance d'indices ontologiques sans doute très faible, puisque l'être n'y compte que comme pur soutien de l'observable, et que la loi typique du savoir y reste de sauver les apparences sensibles, mais qui, cependant, ne recompose pas son objet dans le champ de l'idéalité mathématique en le tirant autant que possible hors de sa réalité propre et du monde de la nature sensible, et qui par suite peut entrer dans une certaine continuité théorétique avec l'explication philosophique. Vous le sentez ? La biologie est un domaine très particulier parce que l'étude du vivant, j'allais dire c'est le vivant, c'est une lapalissade, mais qui est très profonde. Je parlais dans une émission précédente du problème du vitalisme et de ce courant qui a été un peu qui est contesté parce que c'est justement pas quantifiable. la biologie se sert de l'outil mathématique réellement comme outil. Marita insiste là-dessus, et c'est justement une science, dans le premier degré d'abstraction, qui est suffisamment autonome de l'outil mathématique pour qu'elle puisse servir de pont justement à la philosophie de la nature. Et Maritain, il va y consacrer plusieurs pages. Les travaux consacrés par Hans Driesch à la physiologie du développement ont, à ce point de vue, une importance historique considérable, écrit Maritain. À la suite de Driesch, et sous son influence, soit de Bergson, soit de Scheler et de l'école phénoménologique, soit de la philosophie aristotélico-thomiste, des biologistes réputés pour leur recherche expérimentale ont entrepris de réhabiliter des concepts tels que l'organique, la vie, l'activité immanente, l'âme même, que la science du siècle dernier se faisait un devoir d'écarter massivement. Ils ne craignent pas de philosopher, d'insister, avec Auguste Krog et Rémy Collin, sur la nécessité de l'exercice de l'esprit dans la science, de marquer l'accord de leur conception avec la pensée de tel ou tel philosophe, et même avec les intuitions d'un poète de génie comme Claudel. Si Claudel, à propos de l'autodétermination des formes vivantes, parle de notes qui joueraient d'elles-mêmes en étendant les doigts de tous côtés, Uexküll écrit semblablement « Tout organisme est une mélodie qui se chante soi-même ». Büttengick oppose Erklären et Verstehen. Erklären, raconter, Verstehen, comprendre. La réduction analytique et mécanistique et l'intellection synthétique des choses de la vie, l'explication matérielle et la compréhension. Et il vivifie ses recherches expérimentales au contact de certaines idées qui relèvent proprement de la philosophie de la nature, par exemple de l'intuition phénoménologique de l'organique. Vous le voyez ici, la biologie impose de sortir d'un schéma finalement de causalité raide, c'est-à-dire la cause produit tel effet. Et tel effet produit par telle cause, ce qui renvoie à la question du déterminisme, d'une nécessité. Le vivant, j'allais dire, est surprenant. Le vivant est finalement l'inattendu. Et si vous avez les métaphores de mélodie, de poésie qui apparaissent ici dans les propos de scientifiques, c'est bien que la biologie est le champ du sens, de la signification, et que cette signification peut permettre un pont avec l'esprit. Le sens, c'est aussi le sens au sens de direction, hein, le Bedeutung, signification, et puis finalité, le Zweck, le but, ce vers quoi l'on va. Et Maritain est conscient de cette richesse de cette science expérimentale qu'est la biologie. Il s'agit de s'opposer au mécanicisme. Qu'est-ce que le mécanicisme? C'est exactement la conception, finalement, de telle cause, tel effet, et qui va aborder le corps comme un corps d'abord mécanique, où les organes vont produire tel effet selon telle cause, et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans le corps. Par exemple, le rôle des hormones, qui est beaucoup plus complexe qu'un rôle de cause à effet. Donc la biologie permet de sortir de ce champ mécaniciste qui a été une manière d'expliquer le vivant et surtout de rétablir le corps en tant que corps vivant. Le Leib, dont parlera Maurice Merleau-Ponty, opposé au Körper qui est le corps mort. Et le corps, dans son étymologie, va désigner autant le corps vivant que le corps cadavre. On dira corps quand on ne parlera plus d'un vivant. Donc on sent dans le mot corps cette difficulté de stabilité au plan du sens, et la biologie, par son approche, va tirer le corps du côté du vivant, du côté de ce qui est inattendu, imprévisible, et va changer le schéma déterministe qui présidait à l'explication mécaniciste. Donc la position de Maritain, elle est marquée par son temps, parce que maintenant nous sommes assez loin de cette explication, même si je pense qu'il y a toujours un retour des choses, hein, ce qu'on a pensé chasser par la porte rentre par la fenêtre, et que le retour du mécanicisme, il peut venir justement de la précision de nos appareils de mesure qui, en biologie, est aussi important qu'en physique, 100 ans après l'écriture des degrés du savoir par Maritain, ou 90 ans pour être plus précis. Donc le retour finalement du mécanicisme est toujours prégnant, c'est toujours, je ne vais pas dire une menace, mais quand même quelque chose qui peut tirer le corps du côté d'un objet et non plus du côté d'un vivant. Pour ceux qui accompagnent des malades psychiques, comme des gens atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies de perte de mémoire et donc de pathologies cognitives graves, vous le savez. Vous savez très bien que c'est compliqué d'aller dans le milieu médical qui va prendre des mesures, qui va faire des expérimentations pour savoir exactement où on en est de l'évolution de la maladie, alors que vous, votre rapport à votre père, votre mère, votre époux, votre frère, votre sœur, il n'est pas du tout de cet ordre de la mesure. Et pour ces maladies pathologiques, le rapport au corps est d'autant plus important qu'en serrant votre père, votre mère, en le caressant, en lui parlant, en faisant de la musique, en marchant avec lui, en faisant tout un tas de choses sensorielles, physiques, eh bien, vous allez probablement aider cette personne à vivre mieux sa maladie d'Alzheimer et peut-être même à ralentir la maladie. Parce que vous continuez à faire travailler des zones du cerveau qu'on ne maîtrise pas bien. Et tant qu'il y a un centimètre carré qui n'est pas atteint par Alzheimer, on peut avoir un credo que dans ce centimètre carré, on peut encore faire des progrès. Oui, faire des progrès. Du coup, votre approche du corps de la personne n'est pas du tout un corps clinique, un corps mesuré ou mesurable ou quantifiable. C'est un corps vivant. C'est un corps où l'affect compte énormément. Là, on sait très bien que la personne atteinte d'Alzheimer va plus progresser, en quelque sorte, avec des gens qu'elle connaît, même si elle ne peut pas les nommer, elle ne peut pas dire c'est ma fille ou ne peut pas dire son prénom, elle connaît la personne. Donc ce qui est non quantifiable va permettre ce rapport au corps tout à fait original, et c'est bien à la biologie que ça appartient. La question à se poser, c'est pourquoi Maritain écarte-t-il la phénoménologie comme philosophie possible par rapport à la biologie pour permettre un pont? Pourquoi l'écarte-t-il? Puisque finalement, cette différence entre le corps vivant et le corps objet, dont j'ai parlé juste précédemment, elle est très présente chez Merleau-Ponty et elle est présente dans toute la phénoménologie actuelle. Donc pourquoi la phénoménologie serait-elle frappée d'invalidité pour dialoguer avec la science expérimentale qu'est la biologie? Maritain s'en explique On doit redouter à ce point de vue les insuffisances de la méthode phénoménologique comme de l'irrationalisme bergsonien. L'intuition phénoménologique, à la différence de l'intuition bergsonienne, est d'ordre intellectuel, mais elle s'installe dès l'origine dans une pensée réflexive qui récuse la chose. Et elle s'adonne par suite à la pure description d'essence phénomène qu'elle isole de l'être extramental, s'enfermant enfin par là même dans un atomisme noétique comparable au pluralisme cartésien des natures simples. Je traduis en termes simples ce qui peut vous paraître compliqué. Intuition bergsonienne, nous l'avons vu, elle s'oppose à l'intelligence, et l'intuition phénoménologique, elle va aller chercher la chose, mais en fait, telle que la conçoit Brentano, ça s'arrête à l'acte de connaissance pour Brentano. L'intuition s'arrête à l'acte lui-même et du coup, elle est repliée sur le sujet connaissant. Elle ne va pas permettre au sujet connaissant de devenir l'objet connu. Et c'est ça que reproche Maritain, il dit finalement elle s'arrête à une subjectivité, elle ne va pas atteindre l'objet et du coup elle permet ce morcellement qu'on a eu chez Descartes ou ailleurs et elle ne peut pas être opératoire pour dialoguer avec les sciences expérimentales. Alors il va un peu plus loin, ce qui est grave, c'est qu'on va rester dans quelque chose d'infraconceptuel. Et vous l'avez dans l'écriture de la phénoménologie, c'est une écriture presque poétique. Quand vous lisez Maurice Perlin-Pontier, on a l'impression de se laisser embarquer par la beauté du style. Mais c'est très traître, c'est très rigoureux par-dessous, puisque Merleau-Ponty a lu énormément d'articles scientifiques de son époque. Mais ce n'est pas du concept au sens scolastique. Du coup, il y a un manque, une faille qui empêche la discussion avec la science. Maritain le décrit ainsi. Féconde pour l'invention, capable de libérer l'intelligence et de la nourrir, précieux instrument de rénovation et de découverte, c'est dans le moyen de juger que la méthode est déficiente. Et nulle distinction bien tranchée entre l'ontologique et l'empériologique, entre la philosophie de la nature et la science expérimentale n'étant possible, là où manque une ontologie autonome, une philosophie de la nature existant pour elle-même, la méthode phénoménologique, tout en délivrant la biologie de la tyrannie mécaniciste, risque d'y introduire des concepts valables de soi pour la philosophie de la nature, mais sans aucune valeur pour la science, et parfois sans valeur non plus pour la philosophie de la nature. Enfin, la délivrance elle-même dont nous venons de parler risque d'être illusoire. Si toute la connaissance empériologique étant abandonnée à l'analyse physico-chimique, tout ce qui est de la perception proprement biologique se trouve de fait transféré à la philosophie de la nature, envahissant la science. Tandis que cette philosophie risque à son tour de donner, dans un vitalisme intempérant, contrefaçon d'une authentique ontologie du vivant et dans la métaphysique irrationnelle qui fit jadis à la naturphilosophie un fâcheux renom. Même si vous ne comprenez pas tout, le style de Maritain vaut la peine d'être lu. Pourquoi ? Parce qu'il est très précis et très beau. N'oublions pas qu'il a eu 3 prix de littérature pour son style. Donc, non seulement un philosophe, mais un écrivain. Donc ici, nous sommes dans la précision conceptuelle. Que dit-il ? Il dit finalement qu'il faut revenir à une précision du concept et à une ontologie parce que ce sont des piliers de discussion avec la science. Sinon, on abandonne à la science son domaine de mesure, de quantification, et la philosophie risque de manquer de rigueur avec une notion de vitalisme, de nature philosophie, qui va abîmer la philosophie et quelque part l'écarter du champ du savoir, puisque la prégnance va aller du côté de la science. Et du coup, la philosophie sera considérée comme un passe-temps pour prendre un thé tranquillement le dimanche à 17h, ou pour quelques gens retraités qui n'ont rien d'autre à faire, mais ce ne sera pas considéré comme une discipline scientifique, et donc essentielle. C'est ça que cherche à sauver Maritain, justement, en articulant autour de la réflexion plus large que le corps lui-même au sens restreint, mais autour d'une réflexion du corps, la philosophie de la nature et la biologie. Et pour terminer, il revient à Hans Driesch, son maître à penser dans les années 1906 et 1908, et son maître à travailler surtout. Il est normal qu'en fait, les initiateurs qui rapprennent à la biologie la valeur de ces objets propres aient, comme Hans Driesch et comme Buitenzweig, des préoccupations de philosophes de la nature, en même temps que des préoccupations de savants. On sait même que ces préoccupations ont fini par entraîner Driesch du côté de la seule philosophie. Mais cette union des deux formalités en un même sujet, pensant, ne doit pas faire oublier leur distinction, distinction d'importance fondamentale, tant pour les intérêts de la philosophie que pour ceux de la science. C'est pourquoi nous avons insisté sur l'existence d'une biologie expérimentale autonome, distincte de la philosophie de l'organisme vivant, en d'autres termes, sur l'existence d'une analyse empériologique, non seulement physico-chimique, mais proprement et irréductiblement biologique, du monde des corps vivants, qui ne saurait se confondre avec l'investigation ontologique propre à la philosophie de la nature. Cette double analyse empériologique, physico-chimique et strictement biologique, constituant la biologie expérimentale, par opposition à la philosophie de la nature, avec laquelle elle est du reste en continuité. On le voit, Maritain est très hiérarchisant. Il propose une continuité ou des ponts entre les sciences et en même temps, il va diviser les disciplines selon une hiérarchie pour permettre ces ponts. Et là, il met en place ce qu'il appelle une biologie expérimentale, et il est très précis, elle a une analyse empériologique propre à elle, strictement biologique, qui n'a rien à voir avec la mesure des sciences physiques. La conclusion, eh bien la voici. Au vitalisme, ainsi entendu, non moins qu'au mécanicisme, s'oppose la conception authentique de l'organisme. Conception animiste ou hylémorphiste, pour laquelle le principe de la vie est le principe formel lui-même, au sens aristotélicien du mot. C'est l'acte substantiel ou l'entéléchie du corps vivant, en sorte que l'énergétique et le psychique, la matière et l'âme, ne font là qu'un seul et même être, qui n'existe, avec toutes ses déterminations constitutives et ses structures physico-chimiques, et végétative ou sensitive ou intellective que par l'âme. Ainsi, le vital n'est pas juxtaposé, mais surordonné au physico-chimique et une analyse expérimentale proprement biologique est d'autant plus requise que progresse davantage l'analyse physico-chimique des phénomènes de la vie. Cette conclusion est fondamentale parce qu'il y a peut-être une erreur actuelle dans notre espace scientifique, c'est de mesurer le biologique comme on mesure le physique, et d'oublier finalement qu'ici, il y a une unité profonde de l'âme et du corps parce que le corps est fait pour l'âme. Et cette idée n'est pas que chrétienne, elle est déjà présente chez Aristote. C'est avec ces outils que nous allons développer cette année à partir de cette réflexion sur le corps qui engage, vous le comprenez bien, aussi. L'âme.